Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Fourcheret, pas loin de Baron, pas loin de Senlis. Je suis en compagnie de Nicolas Bilot, donc la société Aquilon. Nicolas, vous allez nous expliquer comment s'est née cette société Aquilon et qu'est-ce que vous y faites.
Bonjour à tous. Alors, j'ai créé Aquilon en janvier 2016. Aquilon, c'est un collectif d'historiens et d'archéologues. Alors, on étudie les monuments de ce territoire sous toutes leurs formes, histoire, architecture, archéologie. Puis, pour une partie de ces monuments, quand les propriétaires l'acceptent, on les fait visiter ou on les fait découvrir en conférence, sous différentes formes. Et donc, aujourd'hui, la grange de Fourcheret, la ferme de Fourcheret va faire partie de ces sites-là.
Et vous êtes regroupés comment, en fait ? Pourquoi sur ce territoire ? Parce que vous venez tous de ce territoire ?
Alors en fait, on a dans l'équipe une seule personne qui est de ce territoire, qui est de Béthisy en l'occurrence, Béthisy-Saint-Pierre. Sinon, tous les autres sont des gens qui ont travaillé un petit peu partout en France, notamment en tant qu'archéologue ou en tant que chercheur sous forme de mission. Il se trouve que moi, je suis tombé amoureux de ce territoire pendant mes études, donc j'avais souhaité y venir m'y réinstaller. Quand j'ai créé Aquilon, il y a toute une bande de jeunes qui ont décidé de venir faire le pari du Valois avec moi et puis d'essayer d'étudier et nous installer dans ce territoire.
Et donc vous avez suivi un petit peu les mêmes études ensemble, c'est ça ou
Alors on a fait les mêmes études, mais pas du tout ensemble. C'est-à-dire qu'on a quasiment tous des cursus universitaires, soit d'histoire, soit d'archéologie. On a tous Bac plus 5 ou plus. Mais par contre, on les a fait dans différentes universités. Je crois qu'à nous tous, on représente 7 universités différentes. Bon, moi j'en ai déjà fait 3, moi tout seul. Hein. Mais on représente plusieurs universités. Donc on est vraiment des quatre coins du nord de la France quand même plutôt, hein, du nord de la Loire en tout cas.
Et vous êtes combien donc à Aquilon ?
Alors actuellement on est 6, même s'il y a 2 temps partiels parmi nous, et en réalité bientôt, probablement à partir du 17 février, donc là dans 2 semaines ou 3 semaines, on sera 7, puisqu'il y a une jeune fille, Mélanie, qui va nous rejoindre pour agrandir l'équipe.
Donc ça fonctionne, je veux dire, vous pouvez tous vous salarier dans cette société.
On fait encore un pari économique, hein, c'est-à-dire que c'est encore très fragile, on ne le cache pas. Moi-même d'ailleurs je fais encore des missions pour le conseil départemental parce que je n'arrive pas à générer tout à fait le salaire que je veux, mais tous les salariés tiennent bien. Ça fait maintenant 4 ans que tout le monde est rondement mené, rondement payé, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et oui, c'est un pari économique aussi, c'est un choix de modernité aussi sur la manière de faire, quoi.
Quel site on visite avec vous ?
D'une manière générale, on fait visiter quasiment tous les sites sur lesquels on peut intervenir et sur lesquels on a de la nouvelle donnée à dire. Entre eux, on va dire Soissons, Château-Thierry à l'est et Clermont, Chantilly, Beaumont-sur-Oise à l'ouest, quoi. Donc ça nous fait un territoire quasiment de 3000 km², c'est déjà pas mal, hein, c'est 10% de la région. Dans ce territoire-là, on intervient sur aujourd'hui près de 60 monuments déjà. Et certains de manière très ponctuelle, comme ici à Fourcheret, uniquement l'hiver, puisque le reste du temps, c'est une exploitation qui fonctionne. Et sinon, sur d'autres sites, de manière régulière, comme à Versigny ou à Raré.
Et ce sont des sites privés ou des sites qui appartiennent au département ou c'est un mélange ?
Il y a tous les statuts. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur une propriété privée. C'est peut-être 60 ou 70% de nos sites. On intervient quand même dans une vingtaine d'églises paroissiales qui pour la plupart appartiennent aux communes. On intervient aussi sur des monuments qui sont publics. Le site gallo-romain de Chanlieu est public. Le vieux Crépy, toute la visite du centre-ville de Crépy, de Verberie, de Nanteuil sont des domaines publics. Donc il y a plusieurs statuts, on va dire. Mais les privés font un réseau ensemble et puis représentent aujourd'hui beaucoup de propriétaires de monuments à eux seuls, quoi. 3 monuments sur 4 enfants sont privés. Hein.
Et vous avez des sites préférés ou pas ?
Bon, alors moi, je suis plutôt à l'origine spécialiste des châteaux. Alors évidemment, dès qu'il y a un château, ça me parle plus que le reste. Quoique, avec le temps, j'ai une âme de moine qui se réveille. Ici, aujourd'hui, là, par exemple, Fourcheret, ça me plaît beaucoup parce qu'on va parler histoire de la ruralité, histoire des villages, histoire des paysages. C'est-à-dire des choses qu'on évoque peu quand on visite des châteaux, quand on visite des centres-villes, quand on visite des vieilles maisons. Et c'est toute une histoire qui est à réécrire. En fait, il se passe autant de choses dans les zones rurales et dans les villages que dans les grandes villes, quoi. Donc ça me parle particulièrement. Sinon, parmi les édifices majeurs qu'on fait visiter, je trouve, il y a la commanderie de Neuilly sous Clermont, il y a l'abbaye de Lompon qu'on fait depuis 2 ans maintenant, il y a le château de Nel-Andol, enfin voilà, il y a vraiment des pépites quand même.
Parlez-nous de la grange, la grange d'Imière de Fourcheret, la ferme de Fourcheret.
Alors la ferme de Fourcheret, c'est une dépendance à l'origine de l'abbaye de Chaly. Cette ferme de l'abbaye de Chaly, en l'occurrence, elle est quasiment aussi vieille que l'abbaye elle-même, hein, à quelques décennies près. Aujourd'hui, c'est toujours une exploitation agricole d'ailleurs, donc elle fête ses presque 850 ans d'exploitation agricole. C'est quand même fort. Et c'est un site vraiment remarquable parce que très bien conservé. En général, le patrimoine rural et le patrimoine fermier, paysan, est beaucoup modifié, très transformé, très modernisé. Donc, contrairement aux châteaux ou aux abbayes, on en a perdu 80-90%. Et rares sont les ensembles cohérents. Ici, on a un ensemble cohérent très intéressant, bien étudié depuis les années 80 par plusieurs chercheurs. Donc on a des choses à dire, quoi. C'est un beau site avec une charpente, une formidable charpente, plus vieille que les trois quarts des charpentes de nos églises. Hein. Vraiment quelque chose de remarquable.
Et combien de temps durent vos visites en général ?
C'est une séance de cinéma. Si le film est long, ça peut être 2h, 2h15. Si le film est court, c'est 1h30, 1h15. Ça dépend à la fois du site, à la fois de l'entrain qu'on a, moi comme les visiteurs. Ça dépend beaucoup des questions, parce que moi je tiens absolument à ce qu'il y ait beaucoup de questions, qu'il y ait un plaisir, qu'il y ait un échange. Donc, on va dire en moyenne 1h30. Et les centres-villes, quand on fait Vieux Crépil, Vieux Verberie, Vieux Nanteuil, là on met plutôt 2h quand même, parce qu'on marche déjà un peu plus. Et puis parce qu'il y a tellement à dire dans les lieux comme ça, qu'évidemment on passe un peu plus de temps. Mais enfin, 1h30, c'est le créneau moyen.
Et le tarif est accessible ?
Alors en général, les visites estivales sont à 10 euros, les visites hivernales à 8. Sauf quand on a un surcoût lié soit à la gestion du site, soit à l'administration du site. Par exemple, lorsqu'on fait visiter le château d'Hermenonville, on boit un coup sur place, donc on reverse 4 euros au château, donc ça impacte le coût du billet. Mais enfin, on est toujours de l'ordre de la place de cinéma, justement. Enfin, c'est un peu le même créneau. Hein. Mm-hmm. Clairement, dans ma tête, c'est une dépense qui ne doit pas être plus longue, c'est un encombrement qui ne doit pas être plus long dans l'agenda, mais c'est plus vivant. Je suis en face de vous, quoi.
On peut trouver les informations d'Aquilon où ?
Alors, vous avez trois billets principaux. Le premier, c'est notre site internet, aquilon-découverte.com. Après, vous avez les offices de tourisme, parce qu'ils sont maintenant de plus en plus nombreux à relayer nos infos selon leur territoire, évidemment. Donc, Crépy, Senlis, Compiègne, Villers-Cotterêts, un petit peu Château-Thierry, un petit peu Soissons, eux, ils relaient. Et puis, sinon, on a des sites comme Sortir dans l'Oise, etc., ou des partenaires comme RVM, d'ailleurs, qui relaient parfois déjà nos infos. Alors là, c'est de manière plus ponctuelle, ça dépend un peu de vos réseaux. Et après, dans les offices de tourisme, vous avez des formats papier, soit sous forme de calendrier, soit sous forme de flyer, pour avoir l'information, pour ceux qui aiment moins Internet. Voilà.
D'accord, bon, bah, merci beaucoup Nicolas Bilot, et puis on va se faire un plaisir de cette balade à Forcheret.
Donc dans les grandes lignes, la ferme de Forcheret, la Grangia en latin de Forcheret, qui va donner le surnom Grange de Forcheret, ne se limite pas à une grange, même si ça va être l'essentiel du propos d'aujourd'hui, puisque ça reste quand même le clou du spectacle, la grange. Mais ce n'est pas qu'une grange, hein. Grangia en latin dans les textes anciens, ça sous-entend une ferme, une exploitation agricole complète. C'est le cas. On va avoir ici une très grosse exploitation qui date quasiment de la fondation de l'abbaye de Chaly. L'abbaye au sud et la ferme de Forcheret au nord, qui est la ferme la plus proche de l'abbaye, en dehors de la ferme de l'abbaye elle-même. Et cette ferme-là, c'est son premier relais local de production agricole, de production économique. En l'occurrence, l'abbaye de Chaly est fondée en 1136-1137 et vraisemblablement, dès sa fondation, tout un tas de seigneurs des alentours font des dons qui ont plusieurs formes, des dons de terre, des dons de droits féodaux, des péages, etc. Et ces dons-là, pour certains d'entre eux, vont être très rapidement gérés, administrés de telle manière à essayer de créer des exploitations agricoles pour exploiter les terres. Et donc, ponctuellement, là où les dons sont suffisamment concentrés pour le justifier, on crée une ferme. Et cette ferme que l'on crée à ces endroits-là, il y en a certaines qui vont connaître un destin formidable comme Forcheret, qui vont survivre jusqu'à nos jours. Hein. On est quand même à plus de 850 récoltes à Forcheret. Hein. On est sur certaines d'entre elles, sur des bâtiments qui vont même tellement bien fonctionner qu'elles vont être divisées. Et puis on a d'autres qui vont disparaître progressivement, certaines dès la fin du Moyen-Âge d'ailleurs, donc il doit y avoir des crises précoces qu'on ne connaît pas encore forcément bien. Toujours est-il que 1136-1137, l'abbaye, entre 1144 et 1166, on voit apparaître pour la première fois dans les textes le nom de la terre de Forcheret, Fulquéram. Et entre 1166 et 1204, on bâtit la ferme. Donc d'abord, on obtient les terres, puis on bâtit la ferme. Aujourd'hui, cette ferme, elle a évidemment été saisie comme tous les biens de l'abbaye de Chaly à la Révolution française comme bien national. Et elle a été vendue. Et donc elle a été vendue aux Patrias, enfin il y a eu une petite famille intermédiaire, mais les Patrias, le descendant actuel Alexis Patrias, le propriétaire actuel, descend de la famille qui l'a racheté juste après la saisie en bien national. Et depuis, 9e génération d'exploitants agricoles. Et en l'occurrence, cette ferme entre-temps a été classée monument historique. Elle fait 62 mètres de long, donc c'est déjà une belle grange, hein. On ne s'en rend pas forcément compte là, hein. Mais vous allez voir dedans, elle est assez impressionnante, et elle est traitée comme une église. C'est-à-dire qu'elle a un grand portail. Alors ici, on va avoir la particularité d'avoir un portail chartier et un portail piéton. Mais sur certaines des granges, on se limite uniquement au portail chartier, c'est-à-dire vraiment à la grande porte. Et alors, là, vous avez deux portails. Évidemment, le portail Chartier est censé faire office de grand portail pour être similaire au traitement qu'on aurait d'une façade religieuse. Au-dessus, vous avez deux grandes baies en tiers-point, celles qui sont volées, et au-dessus encore un quadrilobe. Là, vous avez un traitement de façade, comme on fait souvent dans les églises, c'est-à-dire les deux grandes baies au-dessus du portail qui sont équivalentes de la rosace, hein, parfois, c'est-à-dire que ça éclaire l'intérieur, et le quadrilobe, normalement, éclaire les charpentes, qui sont au-dessus des voûtes, quand il y a une église, qu'on ne voit pas quand on est dans l'église, voûtée, mais qu'ici, on verra, puisque vous allez voir qu'on va voir la charpente de l'intérieur. Ensuite, on a traité la grange en faisant trois travées, donc exactement comme on le ferait pour un édifice religieux, c'est-à-dire une nef principale, deux nefs secondaires, des collatéraux en fait, hein, qui vont être d'ailleurs le principal lieu de stockage, c'est d'abord dans les collatéraux qu'on va stocker. Et cet ensemble-là ressemble à beaucoup d'églises, notamment aux églises qui n'ont pas le plan en croix latine. Hein. Alors on va rentrer et on va découvrir à l'intérieur, à la fois l'architecture intérieure et aussi, je vous le dis dès maintenant, une charpente qui date à peu près de 1220. Donc cette charpente, elle est plus vieille que la plupart des charpentes de notre territoire. La grange de Fourcheret vaut ne serait-ce que pour sa charpente, qui a été évidemment réparée, modifiée ponctuellement, mais globalement, la structure générale est d'origine. Quand on ouvre pour la première fois, vous verrez que le temps que vos yeux se fassent, vous n'allez pas voir le fond. C'est assez surprenant de voir la qualité architecturale de ce lieu, mais aussi la taille, encore une fois, uniquement pour y mettre des céréales. On a un cas particulier de grange. Les granges se classent en trois catégories chez les spécialistes. Vous avez les granges à piliers en bois, vous avez les granges à piliers maçonnés, et vous avez les granges qui sont le top du top, à piliers maçonnés reliés en arcade, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire que là, il ne manque pas grand-chose, hein. Vous voûtez ça, vous avez une église. Hein. Et en termes de hauteur sous plafond, ça bat la plupart des églises paroissiales de notre territoire. Hein. Là, localement, parmi les localités que j'ai déjà citées, à part Baron, vous n'avez pas une seule église qui peut rivaliser avec Fourcheret, et même Baron ne fait que 55 mètres de long, alors qu'ici, on est sur 62. Hein. Structurellement parlant, cette grange fonctionne encore assez bien, c'est-à-dire qu'elle a peu de désordre, elle bouge peu. Aujourd'hui, les principaux problèmes de cette grange en termes sanitaires pour l'avenir sont au niveau de la charpente, parce que ça commence à travailler de ce côté-là. Mais les murs sont encore bons, les piliers sont encore bons, les fondations sont encore parfaites. Du strict point de vue de la conservation des grains, aujourd'hui, ces granges-là fonctionnent presque mieux que les hangars ventilés contemporains. La raison pour laquelle on les abandonne au profit des hangars ventilés, c'est que l'augmentation du gabarit des tracteurs fait qu'on passe plus les portes. Donc ça pose problème techniquement. Mais sinon, du strict point de vue de la conservation, elles ont des propriétés mécaniques, des propriétés presque météorologiques, climatiques, excellentes. Et le renouvellement d'air, l'assèchement des grains, la baisse en température, je vous rappelle que l'essentiel de l'objectif de ce type de bâtiment, c'est de stocker des grains qu'on fait baisser en température le plus vite possible en dessous de 14 degrés pour que les insectes ne fonctionnent plus. Et en dessous de 8, ils meurent. Mais si vous arrivez rapidement à descendre la chaleur moyenne des gerbes en dessous de 14 degrés, vous retirez l'activité des insectes. Donc après, vous n'avez plus que comme ennemi principal les rongeurs, les rats, etc. Bon là, vous avez une armée de chats qui fait le boulot.
C'était alors pour RVM. J'étais à la ferme de Fourcheret avec Nicolas Bilot de la société Aquilon pour découvrir cette formidable grange. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.